L'appuntamento dell'Opera Studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça. Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est donc.
Les lents des roues, le.
En espagnol?
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Bonjour à tous et bienvenue sur RDL 103.5 pour un nouveau numéro des rendez-vous de l'Opéra Studio, dans lequel j'accueille aujourd'hui M. Alain Perroux, directeur général de l'Opéra National du Rhin, c'est-à-dire, trois petits points, mon patron. Cher Alain, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Et tout de suite, commençons avec ma première question. Comment devient-on directeur d'opéra?
Oula. J'espère qu'on a beaucoup de temps pour essayer de reconstituer comment on est arrivé là. En fait, je crois qu'il n'y a pas un seul chemin pour devenir directeur d'opéra. Je me souviens que dans une vie antérieure, quand j'étais journaliste critique musicale, j'avais interviewé Alexander Pereira dans les années 90, quand il dirigeait l'opéra de Zurich. Moi, j'habitais Genève. Et il m'avait dit, je lui avais posé à peu près la même question, il m'avait dit « Wir sind Zufallsvögel », on est des oiseaux du hasard. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les modèles, entre guillemets, enfin quand on prend des exemples de directeurs d'opéra, il y a des gens qui étaient auparavant chanteurs ou bien metteurs en scène ou qui ont été journalistes, qui ont été dramaturges. Pereira, il venait, je crois, de la finance. Donc c'est un peu mystérieux. En ce qui me concerne, je suis devenu directeur d'opéra après un certain nombre d'expériences diverses, mais qui avaient toujours l'opéra en leur centre, parce que l'opéra, c'est ma passion depuis que je suis adolescent. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai été successivement, après mes études, donc critique musicale, puis dramaturge au Grand Théâtre de Genève, puis conseiller artistique, c'est-à-dire en charge des distributions, du casting, au Festival d'Aix-en-Provence, où je faisais encore un peu de dramaturgie. Et puis finalement, ça m'a amené à postuler et à être nommé au tout début de l'année 2020 directeur général de l'Opéra National du Rhin.
Et oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le travail, la mission d'un dramaturge dans un opéra?
Alors oui, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée parce que le mot dramaturge, il intrigue et puis il recouvre des réalités diverses. C'est en fait un concept qui vient plutôt de l'Allemagne, ça a été plutôt inventé au tournant entre le 18e et le 19e siècle en Allemagne pour désigner à l'époque quelqu'un qui était un peu le penseur dans un théâtre, c'est-à-dire qui imaginait la programmation, mais qui était en dialogue avec les auteurs des pièces, par exemple. Alors, ça s'est développé à travers le temps, parce qu'aujourd'hui, en français déjà, quand on dit dramaturge, souvent c'est pour désigner quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Mais si on reprend l'acception allemande, c'est un peu plus que ça. Un dramaturge est vraiment quelqu'un qui est, là encore, je dirais un penseur, quelqu'un qui, d'une part, va, dans une maison d'opéra, s'occuper de tout ce qui est de la production de contenu, des articles, des programmes de salle, des conférences, des rencontres avec les artistes et le public. Donc, il va servir un peu de passeur entre les spectacles et un public. Et puis, il y a aussi une autre acception du dramaturge, qui est plutôt dramaturge de production, qui, lui, sera en lien avec un metteur en scène ou une metteuse en scène et qui sera une espèce de tête pensante pour la conception d'un spectacle. Il sera en dialogue avec le metteur en scène, il lui fournira des documents, des références, il servira d'œil extérieur pour faire du feedback, etc. etc. Donc ça, c'est une autre acception du mot dramaturge, mais les deux peuvent se rejoindre. En tous les cas, moi, j'étais dramaturge de maison, donc je m'occupais à l'époque, dans les années 2000, des programmes de salle et des journées thématiques, des conférences à l'Opéra de Genève, qu'on appelle le Grand Théâtre de Genève.
C'est ça. Et donc, tu as été journaliste, tu as été dramaturge, et il me semble que j'ai entendu que tu avais été chanteur. Est-ce qu'effectivement, tu as été chanteur ? Je crois que oui.
Oui, alors c'est vrai que j'en parle pas parce que j'ai pas vraiment été chanteur professionnel. Enfin, un tout petit peu parce que j'ai commencé à faire du chant dans ma post-adolescence, on va dire, à l'âge de 17 ans, je crois. Et ensuite, quand j'avais la vingtaine, j'ai fait partie d'un chœur assez important en Suisse romande. Donc j'ai grandi à Genève, comme je l'ai dit, je crois. Et en Suisse romande, il y avait une figure très importante à l'époque, chef d'orchestre et surtout chef de chœur, c'était Michel Corbeau, qui a eu son heure de gloire. Il avait tout un public, notamment en France. Et donc, je suis entré dans son chœur, le chœur qu'il avait fondé dans les années 60, qui s'appelle l'Ensemble Vocal de Lausanne, avec lequel Michel Corbeau a fait beaucoup d'enregistrements, des tournées internationales. Et donc, pendant 7 ans, j'ai fait partie du noyau professionnel de ce chœur. On a chanté des Passions de Bach, des Requiem de Mozart, Requiem de Fauré, de la musique a cappella, le Requiem de Brahms, beaucoup de choses. Ça a été des années formidables de découverte de tout ce répertoire et du chant choral. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et en parallèle, je faisais des études à l'université et au conservatoire de Genève. Et puis, quand j'ai commencé à écrire comme journaliste, je terminais mes études, je faisais des piges d'abord, et puis j'étais encore à l'ensemble vocal. Donc, j'avais pas mal d'activités. Mais l'activité de chanteur, elle s'est peu à peu effilochée et je ne chante plus depuis au moins 20 ans.
Ouais, c'est-à-dire que tu as beaucoup de choses à faire, donc peut-être c'est difficile de tout mener. Déjà, tu as mené beaucoup de choses et puis tu es directeur d'un opéra. Directeur d'un opéra, c'est très, 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 très prenant. Bon, parce qu'il faut bien sûr faire les castings, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il faut mener la maison. C'est une entreprise, en fait, et c'est beaucoup de travail et de temps et de réunions et de décisions et de dossiers, etc.
Alors certes, je suis en responsabilité sur les questions de programmation, le casting certes, mais là il y a des gens pour m'aider à faire ça. Enfin cela dit, oui c'est ça, mais comme ça a été mon métier à une époque, j'interviens encore beaucoup sur ce plan-là. Mais il y a le choix des ouvrages, le dialogue avec des metteurs en scène, des chefs, des chanteurs, des artistes extérieurs. Mais il y a aussi quand même toute la partie de gestion d'une maison avec des permanents. 250 permanents, le Père National du Rhin, des artistes du chœur, des danseurs et danseuses dans notre ballet, du personnel administratif, du personnel technique, des artisans dans nos ateliers pour construire des décors, fabriquer des costumes. Voilà, ça fait du monde parce qu'à ces 250 permanents s'ajoutent environ 500 intermittents chaque saison. Donc ça fait beaucoup de monde dont on a la responsabilité. On doit faire en sorte que ces gens travaillent dans des bonnes conditions, en sécurité. Il faut être à leur écoute quand il y a des problèmes, quand il y a des revendications. Enfin voilà, tout ce qui est le travail d'un directeur, en somme.
Cher Alain, si tu veux bien, faisons une petite pause musicale tout de suite. Écoutez RDL 103.5, mon invité aujourd'hui est Alain Perroux, directeur général de l'Opéra National du Rhin, et nous venons d'écouter un extrait du couronnement de Poppée de Monteverdi, Laurane Oliva, jeune soprano, ancienne chanteuse de l'Opéra Studio, nous y venons, de l'Opéra National du Rhin, chantée Felice Mio Cor. Alors justement, qu'est-ce qu'un Opéra Studio et quelle fonction remplit-il au sein d'un opéra tel que l'Opéra National du Rhin ?
Alors oui, parmi tous les collaborateurs, collaboratrices de l'Opéra du Rhin, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, évidemment, notre Opéra Studio, qui est une partie importante de ce que nous proposons. Un Opéra Studio, c'est un espace dans lequel nous accueillons des jeunes chanteurs, des jeunes artistes en début de carrière, alors 8, parfois 9 chanteurs et chanteuses d'opéra, qui viennent du monde entier, qui sont choisis sur concours, et puis des pianistes chefs de chant, ce qui a été ton métier aussi, ce qui est encore une partie de ton métier, chère Sandrine, et puis depuis quelques années aussi, un ou une jeune chef d'orchestre. Cet espace, il permet à ces jeunes artistes de commencer à vivre de leur métier, dans le sens où ils sont salariés pendant un an ou deux. Et donc, on leur donne des occasions de se produire en public, dans des spectacles, de se produire dans un milieu professionnel, de commencer à entrer en contact avec d'autres artistes déjà plus expérimentés et donc de se construire un réseau. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'insertion professionnelle. Et c'est du gagnant-gagnant parce que pour nous, ça nous permet d'avoir une espèce de petite troupe qui peut chanter des rôles secondaires dans les grands spectacles et des rôles principaux dans des plus petits spectacles qu'on présente pour les familles et puis aussi dans le cadre de l'Opéra Volant qui est un système d'opéra de chambre qu'on fait tourner dans toute l'Alsace. Et puis, pour eux, ils apprennent beaucoup de choses. On leur fournit aussi un complément de formation sur la maîtrise des langues étrangères. Ils travaillent avec toi et avec des invités qui les font travailler dans différents styles, le lied allemand, le chant mozartien, l'opérette viennoise, etc. etc. Et d'ailleurs, ça débouche toujours sur des concerts, dont beaucoup que nous présentons, et même tous, on les présente à Colmar. Donc voilà, c'est à ça que sert un opéra studio. Et du coup, c'est aussi une forme de tremplin. Et l'exemple de Lorane est intéressant, puisque Lorane, ça a été une de nos... pensionnaire, si je puis dire, pendant 2 ans. Elle avait d'ailleurs chanté l'air qu'on vient d'entendre, qui est extrait du Courant Nom de Popée. Elle l'avait chanté dans une production du Courant Nom de Popée à Strasbourg en 2023. Et là, sa carrière se développe magnifiquement bien, alors qu'elle est encore très jeune. Elle est entrée à 21 ans, je crois, à l'Opéra Studio. Aujourd'hui, elle en a 25. Et elle va faire ses débuts au Festival de Salzbourg dans quelques mois, dans un rôle principal d'un grand opéra français, Saint-François d'Assise de Messiaen.
Ah oui, oui, effectivement. Effectivement. Non, mais c'est fulgurant. C'est vrai que la carrière de Lorane est impressionnante parce qu'elle est très jeune, elle est belle comme un cœur, elle chante très bien, elle joue très bien, elle est restée très simple et elle a surtout la tête sur les épaules. Et ça, c'est important dans ce métier. Parce que c'est un métier très difficile, parce que quand on se retrouve tout seul à chanter sur scène, voilà, c'est difficile. Il faut être courageux, il faut être fait pour ça.
Tu te souviens, quand tout de suite, on était convaincus et on a constaté au cours des 2 ans qu'elle a passé chez nous, qu'elle avait toutes ces qualités que tu viens de dire et un instinct à la fois musical et scénique qui est renversant.
Oui, mais elle était assez craintive et c'est intéressant de voir... En quoi, justement, l'Opéra Studio permet à ces jeunes artistes de se construire? Parce que la première année, elle avait très peur. Donc, elle était très jeune, une voix assez fragile. Et elle avait très peur de tout ce qu'on lui demandait de faire en si peu de temps. Enfin, le trouver que c'était beaucoup. Et donc, il a fallu beaucoup l'accompagner, la rassurer, etc. Et je me souviens très bien qu'à la fin de cette saison, la première saison, parce qu'elle est restée 2 ans chez nous, à la fin de la première saison, elle m'a dit un jour, tu sais, si on m'avait dit un jour j'allais faire tout ça, je ne l'aurais pas cru. Et en fait, on aide ces jeunes à prendre conscience qu'ils ont tout ça en eux, parce qu'en fait, ils ne le savent pas vraiment. Et c'est aussi ça, l'Opéra Studio, c'est révélateur de talent, vraiment.
Prendre conscience et prendre confiance.
Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tous ces artistes, les artistes qu'on a chez nous, à l'Opéra Studio, sont finalement très peu nombreux. On a 4 chanteuses, 4 chanteurs, 2 pianistes chefs de chant, 1 chef d'orchestre. Mais comment sont recrutés ces artistes?
Alors, j'y faisais allusion tout à l'heure, on les recrute sur concours, ça veut dire qu'on diffuse des appels à candidature. On reçoit généralement... pour les chanteurs, facilement 300 candidatures par an, si ce n'est pas plus. Donc, on fait une première sélection d'abord sur dossier et sur vidéo. Et puis, ceux qu'on a sélectionnés, on les invite à venir auditionner dans la grande salle de Strasbourg, à l'Opéra. Et sur cette base-là, on peut faire un choix. Et voilà, on a réussi à avoir des très, très bons chanteurs au fil du temps.
C'est ça, c'est vrai. Et puis, en fait, quand on les auditionne, est-ce qu'on pense au rôle qu'on va leur donner par la suite? J'imagine que oui, on les imagine dans les rôles...
Oui, tout à fait.
Parce que la saison est prête.
Parce qu'on sait déjà quel type il nous faut de chanteur, donc ça influe aussi, ça fait partie des critères que nous appliquons pour les engager, tout à fait.
Et ces jeunes artistes participent donc à la saison de l'Opéra National du Rhin, dans les concerts, les opéras, les récitals, mais ils participent aussi à d'autres événements et actions dont on parle peut-être un tout petit peu moins, enfin qui sont un petit peu moins évidents, qui ne sont pas dans la brochure, par exemple. C'est vrai. Donc, on ne sait pas. Mais tout au long de la saison, ils participent à des projets de médiation culturelle, des spectacles jeunes publics. Ils vont vers les publics empêchés, les hôpitaux, les maisons de retraite, certains centres hospitaliers spécialisés. Ces différentes activités sont bien évidemment enrichissantes pour les différents publics. Le sont-elles également pour ces jeunes ?
Ben, écoute, moi, je pense que oui. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est aujourd'hui une obligation. Enfin, moi, je ne le vis pas comme une obligation. Je le vis comme un plaisir. Et je crois que les jeunes eux-mêmes, parfois, ils sont peut-être un petit peu à se demander ce que j'ai vraiment envie d'aller chanter dans une salle de classe ou dans des prisons, parce qu'on va parfois à la rencontre du monde pénitentiaire. Ouais. Et en fait, j'ai toujours vu, les quelques fois où je les ai accompagnés, qu'ils sont hyper touchés et heureux d'être au contact avec le public, mais d'une manière différente que habituelle quand ils sont sur une scène. Ce sont des moments importants, et notre fonction aujourd'hui, un opéra, il ne vit pas dans sa tour d'ivoire, il ne vit pas dans un autre monde détaché de la cité. Il doit aussi être au contact avec la société dans toute sa diversité. Nous devons travailler avec tous les publics, faire qu'ils se sentent bienvenus chez nous et aller aussi à leur rencontre, ce que nous permettent ces moments dont tu parles et dont les chanteurs et les artistes de l'Opéra Studio sont les acteurs.
Cher Alain, tout de suite, un deuxième extrait musical. Floriane Dertre, soprano ancienne, pensionnaire de l'Opéra Studio d'Opéra National du Rhin, chantait Le Feu, extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel. Elle était accompagnée par un ancien pensionnaire également, pianiste, chef de chant, Hugo Mathieu, qui depuis a obtenu un poste au Capitole de Toulouse. Donc voilà, les carrières se développent après le passage à l'Opéra Studio. Ça fait plaisir. Alors, ces jeunes de l'Opéra Studio présentent chaque année, tu en parlais tout à l'heure Alain, un spectacle dans le cadre de l'Opéra Volant. Donc, en quoi consiste ce dispositif exactement ?
L'Opéra Volant, c'est quelque chose que j'ai créé à mon arrivée parce que Il me semblait important justement que nous sortions de nos murs pour aller à la rencontre de certains publics qui se sentent éloignés de l'opéra, soit de manière géographique, parce qu'ils sont loin des centres urbains où sont les opéras, soit parce que même d'un point de vue social, ils pensent que c'est pas pour eux. Donc l'idée, c'est de produire un spectacle avec mise en scène, décors, costumes, mais disons des effectifs réduits, c'est-à-dire que c'est pas une trop grosse troupe qui serait coûteuse à déplacer. Donc en l'occurrence, les chanteurs et chanteuses de l'Opéra Studio, les pianistes généralement, et puis quelques instruments complémentaires, ce sont souvent de jeunes professionnels ou éventuellement des étudiants avancés de la Haute École des Arts du Rhin. Ces spectacles sont présentés non seulement dans nos trois villes d'attache, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, mais également dans d'autres villes comme Sainte-Marie-aux-Mines, Moutsic, Sa Réunion. On est allé même jusqu'à Saint-Dizier, donc on a même franchi les frontières de l'Alsace. Et ça marche très bien. Ça m'a fait très plaisir de voir. On a dû quand même, je dois le dire, apprendre à trouver une forme de légèreté dans les moyens et dans la mobilité. Parce que les opéras, qui sont souvent des grosses machines, les équipes des opéras ont de la peine à faire léger, petit et mobile. Donc ça a été un effort au départ. On doit aussi demander cet effort aux metteurs en scène et à leurs scénographes, pas qu'ils nous conçoivent des décors trop lourds à monter, à démonter, à transporter. Mais on arrivait à faire des spectacles qui étaient dans cette économie-là, mais qui n'en étaient pas moins puissants, émouvants et qui, je crois, ont touché le cœur du public. Dès la première édition, qui était précisément Cet enfant et les sortilèges de Ravel, là, c'était un très beau spectacle d'Émilie Capliez, qu'on connaît bien ici, puisqu'elle co-dirige la Comédie de Colmar. Mais c'était un très beau spectacle. On a eu l'occasion d'en parler avec Émilie, parce que pour le coup, la scénographie était un petit peu lourde par rapport au cahier des charges. Et après, on a pu, dans les années qui ont suivi, mieux dimensionner les choses. Et on a connu des grands succès, comme Les Fantastiques de cette comédie musicale de chambre, ou bien encore Les Trois Brigands, qui était une création mondiale de l'Opéra Studio, de l'Opéra du Rhin. Donc ça fait toujours plaisir d'aller dans ces salles où on voit un public très familial, très fervent, qui réagit au quart de tour et qui a l'air très heureux d'être là. Et je me souviens notamment de soirées mémorables à Sainte-Marie-aux-Mines.
Oui, c'est vrai, on est toujours très bien accueillis. C'est un très joli théâtre et le public est toujours très nombreux à venir et apprécie beaucoup tous les spectacles de l'Opéra Studio dans le cadre de cet opéra volant, justement. Tu mentionnais tout à l'heure la comédie Les Fantastiques d'Harvey Schmitt. Eh bien, tout de suite, un petit extrait.
Orchestra, accelerando con molto. Everybody get your swords. Indians ready, Indians rape.
Thank you.
Mais de... Ah bon. Bon. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il y a ça. C'est une erreur, ça. Faudra couper. Coupe. Faudra couper. C'est pas grave, ça s'est enchaîné. Je sais pas pourquoi. Donc tu sais où il faudra couper ? T'as compris le truc ? Ok, d'accord. Tu me dis, j'y vais ? Ok. Un extrait de la comédie musicale Les Fantastiques sur RDL 103.5. Cher Alain, pourrais-tu en deux mots nous résumer l'histoire de cette comédie musicale ?
Alors, c'est inspiré d'une pièce de jeunesse d'Edmond Rostand. Et en fait, c'est une espèce de version de chambre et joyeusement ironique, tendrement ironique, de Roméo et Juliette. Donc on a deux voisins, voisines, qui ont des ados, un garçon, une fille. Et donc les parents ont construit un mur entre leurs deux propriétés en interdisant à leurs enfants de se parler, ce qu'ils font bien évidemment, parce que les enfants, surtout quand ils sont adolescents, eh bien, ils ne font jamais ce que leur disent leurs parents. Et on s'aperçoit au cours du premier acte qu'en fait, tout cela était une supercherie. Les deux parents sont très amis et voulaient justement que leurs enfants tombent amoureux l'un de l'autre et se marient. Donc, ils ont fait exprès de simuler une inimitié violente. Donc, voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est en fait, c'est une musique pas chantée, mais c'est un des moments instrumentaux. Dans la version originale que nous avons faite, c'est juste un piano et une harpe, d'ailleurs. Et on entend, en fait, on a entendu des bruitages de bagarres parce qu'effectivement, pour pouvoir résoudre la situation, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans le mensonge, les deux parents, eh bien, ils ont engagé des comédiens, un peu médiocres d'ailleurs, mais pour simuler l'enlèvement de la jeune femme, pour que le jeune homme puisse faire preuve de vaillance et du coup justifier que les parents se réconcilient. Enfin, tout ça est une supercherie, on l'a dit. Donc, c'est pour ça qu'on entend des bruits de cavalcade, de duel à l'épée, et puis qu'on entend que quelqu'un est en train d'expirer de manière très spectaculaire et théâtrale à la fin, hein, avec la musique qui va avec, musique de mélodrame. Mais en fait, il n'est pas vraiment mort, hein, je rassure nos auditeurs.
Bon, tout va bien. Alors, élargissons notre horizon et parlons maintenant des choix de programmation que tu as fait tout au long de ces saisons que tu as construites à l'Opéra National du Rhin. Comment construit-on une saison d'opéra ? Comment choisit-on les solistes, les titres, etc. En deux mots, si c'est possible.
Deux mots, là, c'est un défi de nouveau. Mais disons que ce n'est pas du tout simple de construire une saison d'opéra, mais c'est passionnant. On part à la fois de choses qu'on aimerait produire en se disant qu'elles ont du sens. On ne les choisit pas complètement au hasard. On prend en compte ce qui n'a, par exemple, si c'est des ouvrages connus, il faut quand même éviter, s'ils ont été représentés déjà 3 ans auparavant, ça ne vaut pas la peine, il faut quand même attendre un certain temps. Si ce sont des ouvrages méconnus, ben c'est l'occasion de les faire connaître, et voilà. Après, on regarde aussi quel est le cadre budgétaire, quels sont les artistes disponibles. Parfois, il y a certains artistes avec lesquels on aimerait travailler, donc on les consulte. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Qu'est-ce qui aurait du sens pour vous, etc. Donc, petit à petit, on monte une saison en prenant en compte tout ces critères et parfois des contraintes, un cadre plus ou moins précis. Et puis, ça se monte petit à petit. Moi, j'essaie toujours d'être très attentif aux équilibres pour ne pas avoir que des œuvres très connues ou bien ne pas avoir que des œuvres inconnues ou de la création, parce que là, le public ne s'y retrouve pas forcément. Il vient plus facilement voir un spectacle qui a un titre qu'il connaît un peu, mais en même temps, c'est pas une raison pour ne jamais présenter des choses beaucoup moins fréquentées. Donc voilà, trouver des équilibres aussi entre les artistes connus du public et les émergents à qui on va donner une occasion, une chance. Donc voilà, on essaye de suivre ces équilibres pour produire une saison qui dépend aussi beaucoup un peu du hasard et de certaines opportunités.
Mais les saisons donc prennent beaucoup de temps à être construites parce que quand même il faut réunir un plateau de chanteurs et puis oui. Avoir un chef d'orchestre puis toute une équipe metteur en scène pour faire et puis le scénographe enfin
absolument
costumes, donc combien de temps on s'y prend combien de temps à l'avance
oui,
pour
oui,
faire une
merci
saison d'opéra
de me poser la question parce que là j'ai voulu aller très vite donc j'ai pas dit des choses qui me semblent évidentes mais qui ne le sont pas pour nos auditeurs c'est que étant donné qu'on doit effectivement rassembler des artistes metteur en scène chef des chanteurs etc. Comme on s'adresse à certains artistes qui sont parmi les meilleurs d'aujourd'hui, hein, à l'Opéra du Rhin, on a réussi à faire venir de tout grands metteurs en scène et de tout grands chefs. Ce sont des gens qui, par ailleurs, sont très sollicités, donc qui sont susceptibles d'être engagés par Londres, Paris, New York ou Berlin. Donc, on est vraiment sur un... C'est vraiment véritablement un marché avec les règles du marché qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'il y a l'offre et de la demande. Et c'est la raison pour laquelle on doit commencer à travailler sur une saison facilement 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans à l'avance. Parce que ces gens sont très sollicités, ils ont déjà ils ont un agenda qui se remplit très vite. Donc voilà, c'est voilà, cet ordre de grandeur-là, disons 3 ans pour être un peu à l'aise, 2 ans. Après, ça n'empêche pas que parfois on a des imprévus, donc on doit changer son fusil d'épaule un peu tardivement et tout d'un coup repenser complètement un projet, disons 1 an et demi à l'avance, c'est pas du tout confortable, hein, et il faut plutôt éviter. Mais effectivement, à l'opéra, on doit souvent prendre des décisions qui ont un impact financier 3 voire 4 ans à l'avance.
Et d'où vient cette passion qu'on te connaît d'aimer sortir des cartons les chefs-d'œuvre oubliés? Parce que moi, depuis que je suis ici à l'Opéra National du Rhin, grâce à toi, je dois dire, j'ai découvert des ouvrages incroyables. D'où vient cette passion?
Écoute, ce que tu dis me fait plaisir, parce que le fait est que je trouve que c'est un des grands plaisirs d'un directeur d'opéra, et c'est aussi une autre manière pour moi de répondre à une de tes premières questions, c'est que si à un moment donné je me suis dit, tiens, j'ai l'impression maintenant d'avoir assemblé suffisamment de compétences pour pouvoir éventuellement accéder à un poste de directeur, pour autant qu'on m'engage, directeur d'un opéra, ce que je trouve très beau dans ce métier, c'est non seulement de faire que la machine fonctionne, mais c'est aussi de faire des propositions artistiques et culturelles à un public. Donc voilà, évidemment, des grands titres qu'on revisite sans cesse avec beaucoup de plaisir, mais aussi faire connaître au public des trésors méconnus ou oubliés, parfois d'ailleurs pour des mauvaises raisons, qui sont tout à fait extra-artistiques. Il est vrai que, par exemple, j'ai eu l'occasion, pendant les 6 ans que j'ai passé à l'Opéra National du Rhin, de faire entendre des ouvrages du début du XXe siècle en Allemagne ou en Autriche, qui ont été composés par des artistes juifs, lesquels ont dû, à un moment donné, fuir l'Allemagne, ou l'Autriche d'ailleurs, partir en exil, et puis leurs œuvres étaient interdites parce qu'ils étaient juifs, et après la guerre, on les avait oubliés, et puis on était passé à autre chose. Donc là, il y a une forme d'injustice, alors même qu'il y a des grands compositeurs qui ont écrit de la très belle musique, des magnifiques ouvrages, de vrais chefs-d'œuvre, qu'on ne joue plus pour, au fond, à cause des vicissitudes de l'histoire. Donc, au poste où je suis, je peux justement les sortir des cartons, comme tu l'as dit, pour montrer aux gens qu'il y a des trésors méconnus qui peuvent être très touchants, très émouvants. Et ça a été un de mes plus grands plaisirs de voir qu'effectivement, le public était emporté par le Miracle d'Eliane de Korngold récemment, ou bien par le Roi 10 de Lalo, qu'on jouait beaucoup jusque dans les années 60. Alors là, c'est pour d'autres raisons qu'on ne le joue plus, qui sont d'ailleurs parfois un peu mystérieuses. C'est parfois des modes qui passent. Mais le public a répondu présent. On avait des salles pleines, enthousiaste, très touché par cette histoire bretonne, ou bien il y a quelques années, le Guercœur de Magnard, par exemple, qui était une œuvre qui elle aussi est très peu connue pour des raisons assez incroyables.
Justement, écoutons un extrait de ce Guercœur.
Thank you.
Nous venons d'écouter le tout début du Guercœur d'Albéric Magnard, chef-d'œuvre ressuscité par notre directeur, par mon directeur, Monsieur Alain Perroux, directeur d'Opéra National du Rhin, et qui a été donc oublié pendant des années. Et il y a une raison incroyable. Enfin, raconte-nous un peu l'histoire de ce manuscrit qui est incroyable.
En l'occurrence, c'est que Magnard était un compositeur donc, de la Belle Époque. Et il a écrit son Guercœur d'abord comme ça, parce qu'il sentait une impulsion. Et il était question de le créer à l'Opéra de Paris ou à l'Opéra Comique. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu du vivant de Magnard. Et alors, il s'est passé une chose assez hallucinante. C'est que en 1914, Magnard, qui vivait au nord de Paris, est resté dans son manoir. Il a mis sa famille à l'abri, mais au moment où la guerre commençait et que les Allemands approchaient, il est resté dans son manoir pour défendre son bien. Et il a tiré à bout portant sur une patrouille allemande qui a répliqué et qui a brûlé son manoir. Et c'est comme ça que le compositeur est mort, donc brûlé dans son habitation. Et la partition de Guercœur a brûlé avec lui, la partition d'orchestre. Mais par chance, on avait quand même le chant piano, la réduction pour piano utilisée en répétition, qui avait été éditée. Donc on avait quand même la musique, mais sans l'orchestration. C'est son ami Guy Repartz, autre compositeur, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs à Strasbourg à une époque, qui a reconstitué de mémoire l'orchestration. Et ça n'est que bien plus tard que l'œuvre a été créée à l'Opéra de Paris en 1931, mais elle était déjà un peu... Elle avait été composée 30 ans plus tôt, en fait. Donc elle était presque un peu déjà hors de son époque. Et son compositeur était décédé, donc on l'a pardonné après. Et il a fallu attendre bien plus tard pour qu'elle soit donnée. Finalement, en Allemagne, il y a quelques années, dans la province, et en France, eh bien, à l'Opéra du Rhin en 2024.
Et oui, et c'est un très très beau moment, très très fort, et dans lequel on a pu retrouver deux chanteurs de l'Opéra Studio. À l'époque, Alicia Hanshaw, qui est soprane, qui chantait L'ombre d'une vierge, et Glenn Cunningham, qui depuis poursuit une carrière assez brillante, et tant mieux pour lui, on l'embrasse. Et puis, le jeune chef assistant de la promotion 23-24, Anthony Fournier, a dirigé ce même spectacle, ce Guercœur, à Mulhouse. Donc pour lui, ça a dû être une expérience aussi assez remarquable.
Tout à fait. Les deux dernières représentations étaient dirigées par le jeune chef de l'Opéra Studio.
C'est ça. Donc vraiment, ces jeunes ont du talent, on peut le dire.
Absolument.
Et puis surtout, tu leur fais confiance, et ça, c'est formidable. Alors, nous arrivons un petit peu à la fin de notre entretien, les meilleures choses ayant une fin toujours. Je voudrais savoir, comme ça, ce que tu fais pour te détendre parmi toutes ces occupations que tu as en qualité de directeur d'opéra.
Pour me détendre, j'aime bien être au calme, lire, écouter de la musique. Éventuellement, tu vas me dire que c'est pas très différent d'une partie de mon activité professionnelle, mais quand même, écouter de la musique, aller voir des expositions et des musées. Moi, j'aime bien, je me suis découvert pendant mes années alsaciennes un vrai intérêt pour les romans graphiques. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui se font dans ce domaine, et d'ailleurs là, l'Alsace est une terre d'illustrateurs et d'illustratrices avec une belle école à la Haute École des Arts du Rhin. Donc voilà ce que je fais et je vois des amis. Voilà. Mais je voyage moins qu'à une certaine époque. Je suis un peu lassé des voyages. Et donc j'aime bien avoir mon petit cocon et mon cercle de proches et quelques activités calmes. Et puis un peu de randonnée. J'aime bien la montagne aussi. Voilà. En bon Suisse.
Et oui, et le chocolat aussi, j'imagine.
Trop, malheureusement.
Ah
trop.
Voilà, bah c'est ça, c'est le problème. Ouais. Aurais-tu une anecdote amusante ou insolite à nous raconter, là, comme ça, hop.
En tant que directeur d'opéra?
Oui, ou pas.
Parce que des anecdotes, je pense qu'on en a tous, mais...
Mais en tant que directeur d'opéra,
que, oui, dans les années que j'aurais passé à... J'en parle comme d'un tout, parce que je vais malheureusement bientôt quitter l'Opéra National
du Rhin.
Et
oui, tu vas bientôt partir.
À la fin de la saison, après 6 ans et demi, parce que j'avais l'opportunité j'ai eu l'opportunité de diriger l'Opéra de ma ville natale, à Genève, le Grand Théâtre, donc je vais retourner en Suisse. Dans un mois et demi. Mais donc, pendant les années que j'ai passées à l'Opéra du Rhin, il y a eu pas mal d'anecdotes, surtout en lien avec la période Covid qui a été très mouvementée. Mais ce dont je pourrais parler, et peut-être que certains spectateurs qui étaient là ce soir-là s'en souviennent, en tout cas, il y en a encore de nos jours qui m'en parlent de cette soirée. Hein, on donnait Carmen en décembre 2021 à Strasbourg, puis à Mulhouse, mais dans la série strasbourgeoise, après 5 représentations, on s'est aperçu, après 4 représentations, on avait de moins en moins de choristes qui venaient chanter chaque soir parce qu'il y avait des cas Covid. Donc au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un cluster dans le cœur. Et on s'en est rendu compte dans l'après-midi de la 5h pour la présentation. Donc on s'est dit, on laisse le cœur à la maison. On a appelé tout le monde, on leur a dit, restez chez vous. Mais il était déjà 17h, donc trop tard pour annuler la représentation. L'orchestre allait bien, les solistes allaient bien. Il y a des gens du public qui étaient déjà en route. Donc on s'est dit, on maintient la représentation. On va donner tout Carmen, sauf les scènes de cœur. Mais tous les tubes étaient là. La Habanera, le chant du Toréador, etc. Et donc, comme on n'avait plus le cœur, on n'allait plus faire le spectacle en entier. Donc, ce serait une version avec costume dans le décor, mais sans mise en scène, un peu version de concert, mais quand même. Et puis, que faire des scènes parlées qui n'ont plus de sens? On va les remplacer par une narration. Allez, je vais l'improviser, moi, le directeur. Donc, je me suis retrouvé à 20h, au milieu des chanteurs, sur le plateau, à tenir un micro. Je n'avais pas eu le temps de m'écrire un texte. Donc, j'ai essayé de faire des phrases sans trop me reprendre, comme si elles avaient été écrites et apprises par cœur, pour raconter Carmen, les différentes scènes. Là, vous êtes à Séville, sur une place, etc. Alors, les gens qui avaient tenté l'expérience, parce qu'ils n'étaient pas obligés, ceux qui voulaient être remboursés, on les remboursait, eh bien, ils ont été enthousiastes, parce que ça a été une très belle soirée où les chanteurs se sont défoncés. Il y avait beaucoup d'émotions, une tension palpable, mais une tension positive. Et à la fin, on a eu droit à une ovation. Et je crois que ça a plu aux gens qui étaient là, dans la salle, puisqu'ils m'en parlent encore.
Oh, ben oui, effectivement. Mais souvent, quand on a des problèmes comme ça, de chanteurs malades au dernier moment, où on fait appel à un autre chanteur, et il y a un chanteur qui chante, celui qui vient et qui est en bonne santé, chante.
Un remplaçant
et
voilà, au pied
et
levé.
Puis celui qui est malade malheureusement, mais qui lui connaît la mise en scène, parce qu'après on n'a pas trop le temps de leur expliquer la mise en scène, joue, et mais souvent, ça laisse un très bon souvenir au public parce qu'ils se rendent compte de la performance,
tout
finalement.
Oui, oui.
Et ils voient ce que les gens sont capables de faire, là, comme ça, en claquant des doigts, parce qu'il faut, parce que spectacle doit avoir lieu. C'est notre vie tous les jours. C'est vrai. Alors, maintenant, un petit portrait chinois pour clore cet entretien, cher Alain. Alors, je ne sais pas si tu as préparé tes réponses. On y va. Allez, il ne faut pas réfléchir.
D'accord.
Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu ?
Un animal imaginaire, un dragon, parce que j'aimais beaucoup Tolkien dans mon adolescence.
D'accord. Si tu étais un peintre ?
Un peintre. Moi, j'aime bien Caspar David Friedrich. Donc, un peintre romantique allemand, des paysages spirituels. Avec une dimension, oui, un peu hors du temps et de l'espace. Moi, ça me plaît bien.
Oui, un peu comme dans Gerker, peut-être. Et si tu étais un paysage, justement ?
Ah là, les montagnes. Moi, j'adore les montagnes. Voilà,
si tu étais une année historique ?
Alors ça, c'est compliqué. J'aime bien la Belle Époque. Je trouve que c'est une période fascinante, à tout point de vue. Et alors, disons, allez, à la fin de la Belle Époque, juste avant la guerre, 1913, création du Cercle du Printemps, par exemple.
Si tu étais un moment de la journée ?
Le soir, très clairement.
Une salle de concert ?
Le Victoria Hall, qui est la grande salle de concert de la fin du 19e à Genève, qui est une salle qui a une belle histoire. C'est là qu'Ernest Ansermet, grand chef suisse, enregistrait tous ses disques avec l'orchestre de la Suisse romande dans les années 60 et 70, plutôt 50 et 60, parce que en 70, il était plus vivant. 50 et 60, il a fait des disques qui ont marqué l'histoire pour la marque Decca. Ils étaient toujours enregistrés dans cette salle qui a une très bonne acoustique.
Si tu étais un opéra, question difficile.
Alors, un opéra, un théâtre ou un ouvrage ?
Un ouvrage.
Péléas. Péléas et Mélisande de Debussy.
Si tu étais un artiste ?
De n'importe quelle discipline ou artiste plasticien ?
Oui.
Ah, question intéressante. Je vais parler d'un artiste que j'ai admiré et qui n'est plus vivant, hélas, mais c'était Patrice Chéreau, le metteur en scène français de théâtre, de cinéma et d'opéra.
Si tu étais un type d'art ?
La musique.
Un compositeur. Je te torture.
Oui, il faudrait répondre juste comme ça spontanément, mais là je vais parler du. Il y a tellement de compositeurs que j'aime.
Mais oui, bien sûr, c'est
ça. Ce serait Bach ou Handel. Bach ou Mozart. Mais ça pourrait être Handel d'ailleurs.
Oui, très structuré. Si tu étais un musée.
Si j'étais un musée, le musée d'Orsay.
Une œuvre d'art.
Une œuvre d'art. Ah ben, je vais rendre hommage à Colmar. Le retable d'Isenheim.
Et si tu étais le dernier, un trait de caractère?
L'enthousiasme.
Oui, c'est vrai. je confirme. Merci beaucoup, cher Alain, de t'être prêté à ce jeu et à cette interview et d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup à Peggy, qui était aux manettes, encore une fois. Nous allons nous quitter avec un dernier extrait qui est un prélude de Rachmaninoff, qui a été orchestré par Sir Henry Wood et qui est dirigé par Sora Elizabeth Lee. C'est une jeune chef d'orchestre coréenne qui, elle aussi, est passée par l'Opéra Studio. À très bientôt.